Je suis avec Léo, joueur de la team Betclic. Léo, comment tu te sens ?
J'adore ce parfum d'Europe. Je sens qu'il y a des bons plans à aller chercher.
Prêt pour le coup d'envoi alors ?
Ouais, mon app Betclic est ouverte.
Ce soir, Betclic booste les paris les plus populaires de ta soirée européenne. Alors rendez-vous maintenant sur l'app Betclic pour en profiter. Betclic et le sport se vit plus fort. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Gilles Darbribois.
23h18, Florent Gautreau est là, Daniel Riolo est là, messieurs, dames, la Coupe du Monde, vous le savez, c'est dans un peu moins de deux mois, un peu plus de 50 jours. Et il y a quelques jours de ça, je vous ai raconté qu'un match test avait été organisé au Qatar pour rôder les stades et tout, et qu'il y avait eu plein de problèmes. Alors les retours que j'avais eus, c'est pas d'eau potable au stade, la clim qui marche pas, des temps de transport beaucoup trop longs, en gros, un gros bordel. Et suite à ça, j'ai reçu un message d'Ismaïn, qui était présent justement lors de ce match et qui voulait témoigner. Et moi, je trouve ça super parce que c'est vrai que, comme je le disais juste avant la pub, nous, on débat, alors boycott, pas boycott, là, c'est pas vraiment le sujet du soir, mais finalement, on prend jamais l'avis des gens sur place. Ismaïn est français, il vit au Qatar. Bonsoir, Ismaïn.
Bonsoir à tous.
Salut.
Vous allez bien ?
Bah, bien, et toi ?
Très bien. Très, bon. Très bien. Un peu tard ici, là, mais ça va.
Il est minuit, c'est ça ? Minuit 18 ?
Ouais, minuit 18 exactement.
Et non, bon, on est désolé de t'avoir fait attendre, mais on est content de t'avoir. Ah, ce sera 2 heures quand on passera
en hiver,
en heure d'hiver. En
d'accord.
Okay. Le Qatar bouge pas, c'est ça. Il y a pas d'heure d'hiver.
C'est ça, exactement.
Voilà. Bon, Qatar, en même temps, il y a pas de problème de comment dirais-je, d'énergie. C'est pour l'énergie que nous on change de
d'heure. Sous Giscard, oui. Le changement d'heure avait été
économie d'énergie.
Décidé pour des économies
d'énergie. Il paraît qu'on va y renoncer prochainement au changement d'heure.
Oui, mais alors non, si c'est pour rester à l'heure d'hiver, merci bien. Moi je suis d'accord pour rester à l'heure d'été.
Depuis 10 ans et puis ça, chaque année ça continue.
Bon, tu étais à ce fameux match, Ismaïn ?
Exactement, ouais. Moi j'étais à ce fameux match et du coup nous on écoute ici toujours en podcast le lendemain matin les émissions et du coup c'est vrai que il y avait plein d'inexactitudes comme c'est pour ça que je vous avais contacté. Moi j'y étais, la clim marchait très bien justement. Mm-hmm. Là c'était il y a 2 semaines.
Ah mais la clim on veut pas qu'elle marche justement.
Oui, non, mais c'est juste pour revenir oui, là-dessus.
Pour être factuel sur les problèmes.
Voilà, pour être factuel, c'est ouais. qu'il faisait 45 degrés, il y avait un gros taux d'humidité, et c'est vrai que quand on est dans le stade, bah d'un coup, on aime ou on n'aime pas, mais en tout cas, on est à l'aise, quoi.
Donc là, il fait encore 45 degrés, dans 50 jours, il en fera beaucoup moins.
C'est en train de redescendre, donc là, ça redevient agréable de sortir le soir. Et après, au mois de novembre, il fait vraiment bon. Et comme je disais à votre réalisateur, au mois de novembre, même le soir, dans les bars, etc., ils nous passent des plaids et tout parce qu'il fait un peu frais.
Donc Daniel prévoit quand même une petite veste.
Une petite laine.
Il faut prévoir une petite veste, pas.
D'accord.
Ouais, sur cette période-là.
Bon, alors donc, la clim marchait.
Après, il y avait l'eau.
Alors oui, donc, on nous a dit qu'il n'y avait pas d'eau potable au stade, ça a créé des gros problèmes.
Enfin, les gros problèmes. Après, moi, pour être honnête, je les ai pas vus. Après, l'eau, déjà, il y en a très peu qui déjà la boit même dans les appartements, dans les maisons. Voilà, on boit déjà très peu l'eau du robinet, donc c'est vrai qu'on est habitué à ça. L'eau est vraiment. Moi, j'ai la chance d'aller dans pas mal de stades et l'eau coûte vraiment pas cher. Donc c'est pour un stade, l'eau était à 1,50€. Donc moi, j'ai l'habitude d'aller acheter l'eau, etc. Donc en fait, ça me semble pas être un problème. Je suis parti à l'euro féminin cet été. Pareil, dans les stades anglais, j'arrivais pas à aller chercher de l'eau. Enfin, jamais j'aurais été boire de l'eau dans les toilettes. Et l'eau, elle était à 8-9€. Et il y avait la queue et c'était compliqué. Ici, ça coûte 1,50€. Les stades sont énormes, donc il y a beaucoup d'accès. Donc en fait, ça me semblait pas être un problème.
D'accord.
Et pourtant, on peut pointer plein de défauts d'organisation.
Non, c'est vrai que l'eau potable, tu vas rarement boire l'eau du robinet au goulot dans un stade.
Tu vas au chiottes au stade et tu fais la tête au robinet pour boire l'eau. J'ai jamais vu personne faire ça.
Oui. Donc c'est vrai que pour moi c'était pas un souci. Le vrai souci,
l'autre point noir, c'était les transports aller-retour.
Voilà, le vrai souci, il est là, c'est que il y a le métro qui est très accessible, mais par contre sur ce stade-là, qui est le stade de la finale de la Coupe du Monde, le métro dépose assez loin. Et eux avaient la bonne idée en plus de pas ouvrir, c'est-à-dire tout autour de stade, mais de rassembler tous les fans à un seul endroit précis, ce qui faisait beaucoup de monde et beaucoup de queues. Et après, quand tout le monde avait passé ce truc d'étranglement, là, il laissait les fans partir aux portes. Et là, vu qu'il faisait 45 degrés avec un gros taux d'humidité, là, c'était l'enfer. Tout le monde était en transpiration. Et c'est vrai que s'ils font ça pour la Coupe du Monde, avec tous les fans qui se réunissent, c'est vrai que c'est juste pas possible. Mmh. Donc, c'est pour ça que je vous dis qu'il y a des problèmes d'organisation, mais sûrement pas autant que ce qui avait été dit à ce moment-là.
Donc, toi, t'en pointes un gros, c'est celui de l'évacuation des gens à la sortie du stade.
L'arrivée.
L'autre, le reste, c'était anecdotique, mais...
Pour moi, c'est vraiment l'arrivée. C'est-à-dire, à chaque fois, ça va être quand ils vont arriver au stade, les fans, vu que les stades vont être vraiment pleins. Pour moi, là, ça va être compliqué. S'ils utilisent la même organisation, ça va être compliqué. Parce qu'un stade, et un stade, normalement, c'est fait justement pour accueillir les fans tout autour du stade, ce qui permet de pouvoir disperser tout le monde. Alors que eux veulent les faire passer tous à un endroit, puis après les disperser. Et donc, quand on arrive à cet endroit-là, bah, du coup, d'un coup, il y a 60 000 personnes et ça devient hyper compliqué à passer.
Mais ça, tu penses qu'ils vont se servir de l'expérience? Ça paraît évident qu'ils ne reproduisent pas?
Moi, je pense que ouais, parce qu'ils font quand même, voilà. Moi, j'avais fait la Rap Cup aussi l'année dernière. Sur 3 matchs, ils avaient pas fonctionné comme ça. Là, c'était sûrement parce que c'était le premier match à ce stade-là, parce que c'était le stade de la Coupe du Monde, le stade de la finale qu'ils inauguraient. Donc, à mon avis, ils étaient encore peut-être pas prêts sur ce point-là. Mais je pense que pour la Coupe du Monde, ça sera réglé.
Alors, c'est intéressant de t'avoir, Ismaïl, par ailleurs, sur d'autres sujets. Bon, je sais pas si tu suis l'actu de près en France, mais il y a des débats sur les chaînes d'infos, dans les émissions de sport, boycott, pas boycott, ça commence à monter, les politiques qui s'en emparent et tout. Au Qatar, on en parle? Ou alors vraiment pas du tout?
Si, bien sûr qu'au Qatar, on entend. Enfin, après, moi, je suis un passionné de foot, donc voilà, je vous écoute, j'écoute beaucoup d'émissions. Et c'est sûr que nous, en tout cas, entre expatriés, on en parle. Après, voilà, c'est nous. Moi, si je suis venu ici dans ce pays, c'est parce que j'étais passionné de foot et curieux de voir comment ce pays allait accueillir la Coupe du Monde. Donc, je vais pas vous dire que je vais boycotter. Voilà, c'est juste pas possible. Mais en tout cas, on en parle. Tous ceux qui sont là, bien sûr, qu'ils ont hâte de recevoir la Coupe du Monde parce que nous, on voit ce qu'est Doha. C'est tout petit. On voit tous les stades où ils sont à moins 20 minutes l'un de l'autre. Et on se dit comment une ville comme ça elle peut accueillir autant de monde.
Donc c'est la question que énormément de gens qui connaissent. Alors moi, je ne connais pas Doha, mais je connais des gens qui connaissent. C'est ce que tu es en train de dire confirme ce que j'ai beaucoup entendu à ce sujet.
Ah bah c'est clair.
Comme interrogation. Nous... C'est comment un pays si petit avec tous ces stades rapprochés, ça va pouvoir gérer tous les gens?
Bah déjà de toute façon ils ont pris des mesures quand même assez fortes, hein. Toutes les écoles sont fermées pendant la Coupe du Monde, donc il y a arrêt total des écoles. Exactement. Les entreprises ont une obligation d'envoyer 80% de leurs employés en télétravail pendant la Coupe du Monde. Donc en fait ils vont tout faire pour que les gens restent chez eux. Il y a beaucoup d'endroits qui vont être fermés, qui vont être ouverts seulement soit Uber ou soit alors ils ont mis une grosse campagne de bus aussi électriques. Donc voilà, leur but c'est de pouvoir libérer au maximum les routes de toute la population pour que tout soit consacré à la Coupe du Monde. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est une ville qui de base n'est pas faite pour recevoir 1 million, 1,5 million de personnes sur un mois. Et après nous, c'est ça, c'est la curiosité qu'on va avoir, parce que nous voilà, on sort, il n'y a pas non plus 1 milliard d'endroits pour sortir. On se dit comment ils vont faire pour pouvoir gérer tout ça. Pour gérer la population étrangère qui est pas habituée à cette culture. Enfin voilà, c'est vraiment la grosse curiosité qu'on attend tous, quoi.
Ouais, alors on rappelle qu'il y aura des zones un peu réservées pour la consommation d'alcool, mais qu'il y aura une consommation d'alcool possible. Au départ, il y avait débat là-dessus. Alors il y a aussi la fameuse histoire de quitter le territoire 48 heures après le dernier ticket match que tu as. Alors ça, apparemment, voilà. ils sont revenus aussi là-dessus, les Qataris. Hein.
C'est-à-dire que je voulais revenir là-dessus parce que ce soir-là, c'était Kevin Diaz, je crois. Qu'il l'avait sorti.
Bah nous on a lu ça en France, hein, donc voilà.
Ouais, non, ça a été démenti. Maintenant il y a un petit moment. En gros, ceux qui vont avoir cette fameuse Aya Card, donc c'est le seul visa qui permet de rentrer au Qatar pendant la Coupe du Monde, ils peuvent rester jusqu'au 23 janvier. Donc voilà, si vous êtes éliminé, vous pouvez rester au Qatar. Si votre équipe est éliminée, vous pouvez rester au Qatar. Vous pouvez visiter, regarder d'autres équipes jusqu'au 23 janvier. En gros, ce visa est valide.
Bon. La problématique des travailleurs sur les stades, je sais pas, toi tu les croises, tu les vois, t'as un avis
Ouais, ouais, bah, c'est, de toute façon, c'est, oui, nous, on les voit parce que le pays, la ville est en totale transformation, hein, donc c'est sûr qu'on les voit. Nous, on vient d'un pays où c'est vraiment différent, et c'est vrai que c'est la partie du Qatar qu'on aime pas voir, mais comme quand je voyage dans d'autres pays et je vois d'autres choses que j'aime pas voir. Mais voilà, après malheureusement c'est des combats qui me dépassent et donc on essaye de faire du mieux à notre petite échelle, quoi.
Bon, Ismaël, on reste en contact, hein, parce que quand on sera sur place, si tu veux passer nous voir, déjà tu seras bienvenu.
Avec plaisir.
On aura un studio où tous les soirs l'after sera réalisé, donc avec le décalage horaire sur place à minuit, 22h en
France. Pour se déplacer dans certaines zones de la ville.
Ah, je ne sais. Il y a des quoi?
Des par exemple, est-ce que nous on aura un pass pour aller que au stade, et il y a des endroits où on pourra pas aller, ou on pourra aller se déplacer totalement librement partout?
Ah non, c'est la ville elle est totalement ouverte, et justement leur intérêt c'est que tout le monde découvre les différents quartiers, parce que pour eux c'est une grosse loupe sur tout ce qu'ils peuvent ouvrir. Tout ce qu'ils peuvent offrir de
donc
manière
le matin,
touristique.
Gilbert, on pourra aller se balader et je pourrais aller faire mon tennis.
Exactement, je te montrerai les beaux terrains qu'il y a.
Pour jouer, hein.
Tu peux louer tes terrains, tu sais, il y a des terrains extérieurs qui sont top, il fera très bon à ce moment-là, même à 10h du matin, je vous entendais tout à l'heure, mais en novembre.
Je pense que tu auras le droit au grand classique Roten Riolo sur un
cours.
Et je peux t'assurer que ça vaut le spectacle.
Je viendrai voir ça avec plaisir.
On fera pas payer les entrées, mais ça vaudra le coup.
C'est un peu comme Nadal Djoko, on en est à 34 victoires à 32.
C'est un peu ça.
Ouais. Mais est-ce que si l'un se retire, l'autre va pleurer ou pas?
Ah, je pense.
C'est Daniel le plus sensible. Merci Ismaël en tout cas pour ce témoignage, et on reste en contact. Puis si tu as des infos à nous faire parvenir, hein, tu sais comment faire.
Ça marche.
Il n'y a pas de problème. Salut, bonne soirée.
Bonne soirée à tous.
Allez, dans un instant, on revient avec les tribunes. Et oui, les tribunes, parce que il y a des supporters parisiens du virage Boulogne qui veulent relancer ce fameux virage sulfureux à l'époque. Alors, dans quelles conditions? Pourquoi? Quelles sont leurs revendications? Quelle est leur démarche? On va tout savoir dans quelques instants. Et en plus, ça nous permettra d'ouvrir un peu le débat sur l'ambiance de nos tribunes, sur ce qu'on veut finalement dans nos stades aujourd'hui. On se retrouve tout de suite dans l'after.